Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
L'agriculture, la protoculture, on peut à peu près dire que ça commence il y a 10 000 ans.
Cette semaine, histoire d'agriculture.
La machine à produire de la fertilité, c'est la forêt.
De la forêt primitive aux serres de plastique, l'instinct de survie.
Et donc chaque personne qui a un petit lopin de terre, il met en place du plastique et il met dedans un Africain ou un Marocain pour travailler. Parce que c'est vraiment les seuls qui acceptent ce travail.
L'agriculture arrive en Bretagne il y a 5000 ans, peut-être même pas 4000. Alors qu'elle existe depuis 10 000 ans, c'est-à-dire 5000 ans plus tôt dans le Proche et le Moyen-Orient.
Parce qu'ils cultivent peu à peu et modèlent le paysage selon leurs besoins, parce que les sols vivants répondent au travail humain, tout se transforme lentement. À l'origine est la forêt, source de richesses mais en même temps de danger. La suite de l'aventure humaine se déroulera dans la savane. Mais comment ? Par quel lent processus ? Aujourd'hui, deuxième rencontre avec cette histoire de l'agriculture donnée en mars 2004 par Marcel Mazoyer, professeur à l'Institut National de Recherche Agronomique Paris-Grignon. Un important tour d'horizon qui nous permet de mieux saisir comment le paysage agricole va se dessiner progressivement à la surface du sol, à la surface de la terre. Comment ce même paysage ne sera possible qu'avec la transformation même du sol. Comment il ne sera possible de le rendre viable qu'à condition de faire évoluer ses propres outils de production. Transformation et modification progressive, mais inexorable, qui favorisant le développement démographique des populations, contribuera également à accroître cette métamorphose complexe. Il faut à l'évidence du temps, de la concentration, pour apprécier le plus complètement possible cette contribution très riche proposée par Marcel Mazoyer. Et, si cela n'est guère possible dans les emplois du temps de chacun, ne pas hésiter à l'enregistrer, à le poser dans un coin et à y revenir le moment venu. C'est le lot de ces grandes avenues qui, une fois empruntées, ont le mérite de rafraîchir nos perspectives, d'étendre nos sensations à l'heure où les questions écologiques prennent l'importance que l'on sait dans les débats, atrophiés cependant, et malgré toutes leurs bonnes intentions, du préalable historique, à nos yeux, nécessaire. Cette nouvelle journée sera intitulée « Développement et déforestation ».
Chapitre 1. Agriculteurs anciens.
Les voici, armés de haches et de pierres polies, partis à l'assaut de la forêt qui les entoure et qu'ils défrichent jour après jour. Les voici, implantant ces agriculteurs néolithiques au cœur même de cet espace primitif, les éléments de leur propre survie. Développant un savoir-faire progressif, dessinant un paysage nouveau, occupant de nouvelles aires. Il ne s'agit jamais rien d'autre que de l'acte fondamental de la survie de l'espèce nichée au cœur de cette activité, nichée au cœur des cerveaux. Des cerveaux qui ne cessent d'inventer et par là même de se développer eux-mêmes. L'évolution même comprise en pointillés est à ce titre un des récits les plus fascinants qui soient. Et l'archéologie, nous aurons l'occasion de l'entendre aujourd'hui, une des sciences historiques les mieux adaptées à la modernité. Comment saisir une histoire sans l'enfermer dans un présupposé, dans une grille, mais en la conservant précieusement dans un questionnement, sans cesse renouvelé par les découvertes du terrain. Cette histoire des hommes qui nous sera ici racontée est une histoire d'avant les civilisations, d'avant les villes. Une histoire de groupes humains en création, en invention, en mouvement. Marcel Mazoyer.
Bon, il faut bien se rendre compte que les sociétés de cultivateurs qui se sont constituées dans un processus de transformation très lent, puisqu'il a pris 1000 ans ou plus, pour passer d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société de cultivateurs-éleveurs, ces cultivateurs, dès le début, ils cultivent les milieux les plus accessibles, les plus fertiles aussi, qui n'étaient jamais que le tour des maisons, nécessairement un peu déboisées et nécessairement enrichies en matière organique et minérale issue de l'activité domestique elle-même. Le foyer, c'est un lieu de concentration de la matière organique qu'on consomme et qu'on brûle, et puis c'est un lieu de redistribution à proximité même de cette matière organique et de ces matières minérales qui sont tout à fait propices au premier pas de l'agriculture. On peut dire que c'est une espèce de jardinage autour des maisons qui a commencé. Mais bien sûr, ça va jamais très très loin, ce mode de naissance et d'extension de l'agriculture. Ayant ainsi appris à obtenir, avec beaucoup moins de travail que la simple cueillette, des aliments en particulier végétaux, ayant mis autour de ça quelques animaux, il fallait quand même enclore les jardins ou surveiller de près ou attacher les animaux pour qu'ils viennent pas manger les produits des cultures. Donc ce petit noyau d'agriculture, on va dire domestique, proche des maisons, si ça suffit pas à un moment donné, naturellement, on sait que les cultivateurs ont cherché d'autres endroits que le pourtour des lieux d'habitation. Et ils sont allés quelquefois dans des zones de crues et de décrues, parce que c'est des terrains propres, nettoyés, alluvionnés, ça présente des caractéristiques de facilité. Mais il y en a, mais il n'y en a pas forcément énormément, et puis il y a des endroits où il n'y en a pas, des zones aussi favorables. Alors quand il n'y en a pas, que font ces agriculteurs, ces cueilleurs jardiniers, on va dire, que font-ils pour étendre la production des plantes cultivées et des animaux domestiques, qui est jusque-là encore limitée? Et dans les milieux déboisés, ils ont tendance à multiplier les animaux, c'est facile à comprendre, les herbivores se portent bien dans les milieux déboisés, qui par définition sont des milieux plus ou moins bien herbeux. Mais quand ils se retrouvent devant des milieux boisés, c'est-à-dire des savanes boisées ou des forêts de type on va dire méditerranéen ou de type tempéré ou des forêts de type tropical, bon, c'est un peu moins aisé, c'est pas la multiplication des animaux qui va se développer, c'est un type d'agriculture qui est basé sur le défrichement de la forêt avec les moyens de l'époque. Et les moyens de l'époque, c'est les haches de pierre polie. Ça permet pas d'abattre comme ça, d'un seul coup, un hectare de forêt coupé à blanc, comme des scies tronçonneuses ou même comme des haches d'acier avec des passe-partout. Mais ça permet d'éclaircir cette forêt, c'est-à-dire de détruire les sous-bois, peut-être une partie du sous-étage, disons les bois les plus petits, les plus fragiles, les plus accessibles. Donc de pratiquer une éclaircie en forêt. Alors qu'on n'a pas vraiment d'outils de travail du sol pour défricher un tapis herbacé. Et donc les zones herbacées, c'est plutôt les animaux qui vont les exploiter. Et les zones où il y a du bois, comme on a des outils à abattre le bois depuis longtemps, qui sont les haches de pierre polie, et qu'on a du feu pour compléter le travail de défrichement, on va pratiquer des abattis brûlis et faire des cultures. Un seul problème, c'est que quand on fait ça, on fait une culture 1 an, 2 ans, 3 ans, puis au bout de 3 ans, il ne pousse plus rien, pour plusieurs raisons, parce que qu'on va expliquer, c'est parce que la fertilité qu'on a mobilisée par l'abatti brûlis a tendance à, fertilité minérale du sol a tendance à s'épuiser, et puis d'un autre côté, les mauvaises herbes, qui ont profité aussi de l'éclaircie, et ça c'est des herbes directement concurrentes des cultures annuelles, foisonnent, et finalement la fertilité minérale diminue, mais la fertilité utile, c'est-à-dire ce qui reste pour les plantes cultivées quand les plantes sauvages ont mangé la moitié de cette fertilité minérale, tend à diminuer. Et donc, pas d'autre solution que de défricher des nouvelles parcelles boisées, vierges, ou, si elles ne sont pas vierges, en tout cas, qui ont eu le temps de reconstituer un milieu boisé puissant, dense, avec une fertilité organique et minérale. Donc, les systèmes de culture sur abattis brûlis sont les systèmes qui se développent dans les foyers d'origine à partir des origines qu'on a dites la dernière fois, et puis qui, quand les foyers d'origine débordent et que la colonisation agraire des continents continue, ça s'est passé à peu près partout comme ça, entre il y a 10 000 ans et il y a 5 000 ans, la population humaine a été multipliée par 10, fondamentalement grâce à la conquête des milieux boisés par les cultures sur abattis brûlis. Qui ont progressé aux quatre coins du monde. Donc, au fur et à mesure que la population progresse, eh bien, on verra ça tout à l'heure, on étend les déboisements, etc. Et là où il y a dans le monde des forêts encore debout, eh bien, il y a encore des cultivateurs sur abattis brûlis. Naturellement, en général, sauf exception, ils n'utilisent pas des haches de pierre polie, mais ils utilisent des haches qui viennent des usines chinoises ou des machettes qui viennent des usines brésiliennes, par exemple. Mais ils pratiquent toujours des cultures sur abattis brûlis.
Repérer dans un premier temps le nouveau mode de production et dans un deuxième temps, estimer les mécanismes de sa mise en place, Marcel Mazoyer.
Alors comment, avec un peu plus de précision, comment est-ce que ça fonctionne ? Là, il faut avoir vu des jeunes issus d'un village forestier déjà installé et déjà cultivé. Il faut les voir s'installer en Afrique noire ou en Asie dans certaines régions ou en Amazonie. Il faut les voir s'installer sur un nouveau territoire de forêt vierge, c'est-à-dire que le village dont ils viennent commence à être surpeuplé, commence à se déboiser, et une partie de la population déménage. Alors ceux qui sont les pionniers de l'installation du nouveau village au-delà de la frontière cultivée, il y a un front pionnier, ils vont dans la zone qui n'a jamais été cultivée. Comment ils font ? Eh bien, évidemment, ils commencent par essayer d'installer des maisons sommaires, qui s'agrandiront et qui accueilleront les gens du village qui viendront les rejoindre. Et puis, ils commencent à installer les cultures. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de problèmes de répartition des terres, parce que les terres de ce nouveau village en terrain vierge sont pas limitées par rapport aux besoins des nouveaux venus. Et donc, chacun choisit, pas trop loin, une terre qui lui paraît bonne à défricher sous la responsabilité du chef de la terre. Alors, ça veut dire que la biomasse forestière est bien développée, mais il ne faut pas que ce soit que des trop grands arbres, parce qu'on a du mal à les abattre. Donc, on saisit aussi une forêt qui est un peu diverse, où on va trouver des lieux où on pourra faire des éclaircies faciles. Et puis, on regarde le sol. Si on trouve que l'humus forestier est en dessous, on trouve que du sable très blanc, un peu lessivé, on va pas défricher là. On se mettra dans un endroit où on voit qu'en épaisseur, le sol a gardé des éléments nutritifs en tout genre. Bon, donc on choisit son terrain et on fait un abattis brûlis. Alors le mode de défrichement, c'est défrichement partiel à la hache. Abattis partiel, ça veut dire qu'on coupe ce qui est facile à couper. Et on laisse ce qui est trop difficile. On ne dessouche pas. Ça n'a rien à voir avec un défrichement du Moyen-Âge. Et on crée donc de la place au soleil et de la place au sol pour les plantes cultivées. C'est le but, c'est l'objet de ce travail. Bien entendu, il faut se débarrasser des branches, des arbres abattus. Alors, en général, on fait donc ça assez vite, on fait sécher, et quelques semaines ou mois avant les pluies et les semis, on le fait brûler. Pas trop longtemps avant. Parce que si c'est trop longtemps avant, ça pourrait être emporté par le vent, ou ça pourrait être les cendres, qui contiennent évidemment la matière minérale qui était stockée dans la végétation qu'on a coupée, les cendres contiennent la matière minérale qui est utile aux plantes, absorbée par les plantes, stockée dans les plantes, libérée par l'abattis et le brûlis, et qui sera très utile aux plantes cultivées. Donc faut se débrouiller pour que ça s'en aille pas, soit par le vent, soit par infiltration, eau de pluie, pénétration dans le sol, drainage profond. Bon, si on fait ça, et si on attend pour cultiver que les éléments fertilisants des cendres soient descendus dans la nappe, on aura des très mauvais rendements. Donc c'est tout un savoir-faire. Alors, généralement, aujourd'hui, on prépare un lit de culture. C'est-à-dire que soit avec une toute petite houe à biner, on va houer la surface du sol de manière à mélanger les horizons qu'on appelle à zéro, c'est-à-dire la matière organique brute, les feuilles et les branches qui pourrissent à la surface du sol, la litière qui pourrit, mélanger les cendres, et mélanger ça avec les horizons superficiels du sol, tout en détruisant le tapis racinaire des plantes préexistantes. Donc, ça a une fonction de mélange des horizons pour favoriser la décomposition, la minéralisation, aérer, tout ce que vous voulez, mais ça a aussi une fonction de binage préalable, on pourrait dire. Binage préalable, on fait la place nette pour les plantules et les racines des plantules qui vont se développer là, pour que tout ça soit à leur disposition. C'est-à-dire, la préparation d'un lit de culture, c'est transformer la fertilité importante de ce milieu naturel déboisé avec sang, c'est la transformer en fertilité utile, et non pas la transformer en fertilité inutile qui alimenterait des plantes sauvages dont on n'a pas d'utilité. Donc faut comprendre que l'agriculture, c'est exploiter la fertilité au profit des plantes cultivées, et ce qu'on arrive à extraire de la fertilité d'un milieu au profit des plantes cultivées, c'est ça qu'on appelle la fertilité utile. Bon, pour ça, il faut abattre, il faut brûler, il faut faire ça en temps voulu, et il faut éliminer la concurrence des plantes inutiles. Et ça, ça donne la fertilité utile.
Développement et déforestation. Chapitre 2. Savoir-faire en terrain fertile.
Il n'y a pas de miracle, pas de solution toute faite venue d'on ne sait où. Jour après jour, déception après déception, joie après joie, les surprises succèdent aux échecs. Et le savoir-faire s'affine. Affaire d'observation, affaire de méthode, affaire d'entendement d'un monde qui les entoure, riche en promesses, mais surtout non acquis. Il faut se fondre dans le décor, l'adapter à ses besoins, mais selon des règles multiples. Les règles humaines et les règles de la nature, ses cycles, sa composition. Ce que beaucoup, beaucoup plus tard, on appellera géologie, chimie, ces identifications-là n'existent pas encore. Pour l'heure, comprendre un sol, réaliser un dialogue fertile avec lui, c'est savoir utiliser ses yeux et ne pas renoncer à recourir à ses bras. Un sol est préparé selon les techniques acquises, vient le moment où l'espèce humaine déploie son intelligence. Première opération, la culture du plus immédiatement utile. La base de l'alimentation du groupe, la base de sa sécurité alimentaire. Du blé, de l'orge, du maïs, du riz, c'est selon. On cultive ce qui fournit les calories nécessaires au groupe. Mais en une année, l'espace de fertilité utile a considérablement baissé en qualité. Une contrainte qui oblige à modifier ce que l'on cultive. Une contrainte qui fait intégrer à l'espèce humaine une donnée nouvelle par rapport au chasseur-cueilleur, celle du temps. Marcel Mazoyer.
La succession culturelle, dans une forêt, on va dire, peu fertile, fragile, ça sera une année de culture, et la deuxième année est tellement désastreuse qu'on la fera même pas, et on laissera la terre en friche le temps qu'il faut pour que, à vue d'œil, un chef de terre ou un agriculteur expérimenté puisse dire, bon, j'ai reconstitué ma forêt, j'ai reconstitué des conditions de fertilité générale, qui sont proches de celles que j'ai trouvées quand je suis arrivé il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc on laisse à la forêt le temps de reconstituer un milieu boisé qui, si on refait un abatis brûlis, sera à peu près aussi fertile que la première fois. Donc on laisse la friche. Et puis, dans 20, 30 ou 40 ans, le cultivateur qui avait fait ça, ou son fils, reviendra sans doute recommencer l'opération, sauf si c'était avéré que c'était un endroit moins favorable qu'on pensait, auquel cas on n'a pas oublié que c'est pas là qu'il faut faire. Le régime s'établit de la manière suivante. Une ou deux ou trois années de culture, donc des cultures temporaires, suivies de plusieurs années de friches, allant d'une dizaine d'années de friches jusqu'aux les cas les plus longs que j'ai observés, jusqu'à une cinquantaine d'années de friches. Donc, des cultures temporaires de 1, 2 ou 3 ans, suivies de friches boisées de une ou plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est la succession des cultures et des friches. Et comme on revient recommencer la même succession de cultures et de friches 20 ans, 30 ans ou 40 ans après, eh bien, puisqu'il y a répétition périodique de cette succession, on appelle ça une rotation. En l'occurrence, c'est une rotation de quelques années de culture en alternance avec quelques dizaines d'années de friches boisées. Ça, c'est la rotation. C'est pas compliqué, mais c'est le cas le plus compliqué de rotation. C'est pas compliqué, mais on commence par le plus compliqué. Ça sera plus facile par la suite. Alors, réfléchissons une minute à ce mode de renouvellement de la fertilité utile. On voit bien que la machine à produire de la fertilité, c'est la forêt. Qu'est-ce que c'est que la fertilité d'un milieu donné? C'est sa capacité à produire de la biomasse végétale. Les animaux produisent pas de matière organique. Les animaux consomment de la matière organique et la détruisent. Les seuls êtres qui produisent de la matière organique, qui constituent la nourriture des animaux et des hommes, c'est les végétaux. Donc on appelle fertilité d'un écosystème, au fond, c'est sa capacité à produire de la matière organique végétale. Alors ça dépend de plusieurs choses. La première chose, ça dépend du soleil. Deuxièmement, il faut qu'il y ait du gaz carbonique. Et plus il y a de gaz carbonique dans l'air, plus la fertilité du milieu est élevée, même si on a peur de l'effet de serre. Il faut du gaz carbonique, il faut de l'eau qui monte par les racines. Et c'est la synthèse des sucres sous l'effet des photons qui vous donne les sucres, gaz carbonique et eau en libérant de l'oxygène, en l'occurrence. C'est ça la fertilité. Donc la fertilité, c'est le gaz carbonique, c'est l'eau et le soleil. Alors, quand on a du soleil, quand on a du gaz carbonique, on n'en manque pas en général, et quand on a de l'eau dans le sol, pour constituer une solution du sol et pour alimenter la plante en eau et en minéraux, on a des plantes, des végétaux qui croissent, qui produisent de la biomasse. Et la fertilité de des écosystèmes terrestres, c'est en gros le fonctionnement de ça. Deuxièmement, la matière organique morte qui est accumulée là contient tous les éléments minéraux qui étaient stockés dans la matière vivante avant qu'elle meure, dans les feuilles tombent, les branches tombent. Donc vous avez, votre forêt a constitué un stock de fertilité minérale qui n'existait pas au départ, qui était pratiquement nul au départ. D'où, il faut des milliers d'années pour arriver à faire émerger une fertilité. Donc là, vos plantes si, que vous cultivez, elles bénéficient des cendres du brûlis, qui sont les matières minérales provenant de la biomasse que vous avez coupée et brûlée, et elles bénéficient d'un déstockage de minéraux utiles aux plantes qui viennent du fait que, quand vous avez ouvert le milieu, vous avez aéré le milieu, réchauffé le milieu, la matière organique morte qui contient les mêmes éléments minéraux va petit à petit s'humifier, comme on dit, devenir humus, et puis cet humus va se minéraliser et va libérer ces matières minérales qui se sont stockées petit à petit dans la biomasse pendant des millénaires.
Une bombe fertile à retardement qui ne demande que quelques conditions favorables pour exploser et offrir toute sa profusion. Incroyable rencontre pour un impensable destin. La Terre eût pu être infiniment moins fertile, l'humain moins qualifié à s'y fondre. Au contraire, à cet endroit du récit, au travers de ce qu'attestent les plus récentes recherches archéologiques, il s'établit que la faculté d'adaptation humaine semble l'emporter sur tout le reste. Contourner les difficultés, comprendre l'espacement nécessaire des friches pour le maintien de l'équilibre, parce qu'il aura égratigné le sol forestier, l'humain aura planté durablement les conditions de sa survie et de son évolution. comprendre le sol qu'il habite, le défricher, l'organiser. Organisation et performance du système, Marcel Mazoyer.
On a donc un écosystème qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un écosystème non cultivé et qui est cultivé. Alors, d'abord, l'endroit le plus artificialisé de toute agriculture, celle-là comme les autres, c'est quand même les habitations. Les habitations, c'est un endroit complètement défriché, dessouché, définitivement, si je peux dire, et puis construit. Autour des habitations, il y a toujours ces jardins-vergers qui sont le lieu privilégié de restitution à l'écosystème de toute une fertilité organique et minérale qui a été ramassée là, dans les champs de forêt. Et comme on ramène les récoltes là, c'est là qu'on consomme, c'est là qu'on bat les céréales. Donc, il y a une espèce de concentration de fertilité organique et minérale autour des maisons. Et donc, on va y faire des cultures précieuses, etc. Toujours les jardins vergers qui sont autour des maisons. Bon, alors ça va de la patate douce, la tomate, le manioc, le bananier. Il y a tout ça autour des maisons. Et puis autour, il y a une auréole défrichée qui est... C'est une auréole de visibilité aussi. Les villages, c'est pas des villages de pygmées, c'est des villages de cultivateurs. Ils se mettent entre eux et la forêt. Eux et les gens qui arrivent, on ne sait pas qui c'est, les animaux qui débarquent, on ne sait pas ce que c'est, ils laissent 30, 40, 50 mètres dégagés. Ça, les enfants peuvent jouer au ballon, et puis les poulets et les cabris peuvent s'ébattre là-dedans sans risquer d'être ramassés dans la minute qui suit sans qu'on ait rien vu voir. L'écosystème cultivé, c'est tout ça. Hein. Et puis on arrive dans l'auréole de la forêt, la partie de la forêt qui est la moins éloignée des maisons, où alors on a affaire à des champs des clairières cultivées, des clairières abandonnées depuis un an, des clairières 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis après on voit plus, c'est la forêt. C'est la forêt cultivée, on va dire partiellement cultivée, périodiquement cultivée, et puis ensuite, si c'est un village peu peuplé qui a des réserves de terre, ben on rentre petit à petit dans la forêt non cultivée. Et puis, il peut y avoir, le long d'un bas-fond marécageux et malsain, ou dans une zone rocheuse, des zones incultivables avec les moyens du moment. Performance de ce genre de système, enfin, je ne vais pas essayer de vous apprendre ça de manière très détaillée, mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut faire très attention à ce que les gens disent sur les performances de ces systèmes. Parce que rien ne correspond à ce qu'on a chez nous ou dans d'autres régions. Hein, vous parlez du rendement des céréales en France ou aux quatre coins du monde, tout le monde pense au rendement à l'hectare comme ça. Il n'y a pas 36 hectares. Un hectare de céréales, c'est un hectare de céréales. Ben, dans ce système-là, un hectare de céréales, c'est pas un hectare de céréales. Parce que vous avez un cultivateur qui a éclairci, défriché partiellement un hectare de forêt pour y faire ses semis. Si vous regardez le rendement apparent, vous dites, il a défriché un hectare, vous oubliez un moment que c'est partiel, il a défriché un hectare, et qu'est-ce qu'il a récolté là-dessus? 10 quintaux de céréales. Alors on dit, rendement 10 quintaux, c'est pas beaucoup, etc. Sauf que si on regarde qu'il y a des arbres debout, qu'il y a encore des souches, qu'il y a encore des racines, et qu'on regarde quelle est la surface semée, effectivement, eh bien sur ce soi-disant hectare cultivé cette année, il y a peut-être que 5000 mètres carrés, c'est-à-dire un demi-hectare, effectivement, semé et récolté. Le rendement apparent de la parcelle défrichée, c'est un rendement qui paraît faible. Mais le rendement réel de la surface effectivement semée, ben, par hectare, c'est le double. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 20 quintaux. Et moi, ça m'est même arrivé de mesurer 30 quintaux, ce qui est absolument énorme. C'est le rendement le plus élevé qu'on puisse obtenir jusqu'à l'usage des engrais minéraux. Personne, depuis le néolithique, a fait plus que 30 quintaux par hectare semé et récolté. Là, on le fait sur la partie, effectivement, cultivée, semée, récoltée. Mais maintenant, si vous prenez conscience que pour un hectare cultivé, vous avez 20 ou 30 ou 40 ou 50 hectares de friche, si vous faites le rendement territorial de la forêt cultivée de temps en temps, ben, vous vous apercevez que ça vous fait 10 quintaux un hectare défriché, sur 50 hectares cultivés de temps en temps, une fois tous les 50 ans, et bien là, et puis ça, vous multipliez par 100 pour avoir, vous avez un rendement par kilomètre carré qui est de 20. Si vous avez 20 quintaux par kilomètre carré de forêt, vous pouvez nourrir quand même des densités de population de l'ordre de 10 quintaux par kilomètre carré de forêt. Très important. Parce qu'on dit que la densité maximum de chasseurs-cueilleurs dans une forêt primaire, c'est plutôt de l'ordre de 1 habitant par kilomètre carré que de l'ordre de 10. Donc on s'aperçoit que la forêt la plus superficiellement cultivée, on cultive une fois tous les 50 ans, ça vous fait 10 fois plus d'habitants que des chasseurs-cueilleurs. Si on cultive tous les 20 ans, on arrive à maintenir un rendement apparent de 10 pour la simple raison, si on faisait exactement la même chose que la première fois, ça ne marcherait pas. Mais pour avoir le même rendement apparent de 10, on abat non plus la moitié des arbres, mais on en abat les trois quarts. Et donc, en réalité, le rendement réel, parce la surface ensemencée récoltée a augmenté, et le rendement réel a diminué. Le rendement apparent reste le même, et la densité de population, là, elle augmente, tout simplement parce que la surface qui sert de base au système, c'est plus 50 hectares, mais c'est 25 hectares. Et puis, quand on arrive à une dizaine d'années de rotation, alors là, le rendement apparent lui-même baisse, le rendement réel baisse, bien entendu, aussi, mais là, on cultive les deux tiers ou les trois quarts. Il n'y a plus que des souches, il n'y a plus de bosquets, etc. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le rendement réel est à la baisse. Et si on continue de raccourcir la durée de la friche, elle ne sera même plus boisée, les bois ne se reconstitueront plus, la friche buissonnante ne sera plus boisée, on passera à une friche parfaitement herbeuse, c'est-à-dire en réalité à un système de savane. On est arrivé au bout du déboisement.
Dans quelques instants, retour à Histoire vivante. Juste après, quelques nouvelles de la route.
Infotrafic, RSR.
Un accident s'est produit sur l'autoroute Genève-Lausanne entre l'échangeur Décubes Blanc et Lausanne-Crissier au milieu des voies de circulation en direction de Lausanne. Prudence si vous abordez ce tronçon. Sur l'autoroute Morat-Yverdon, la circulation se fait sur une seule voie entre les jonctions d'Avanches et de Payerne et ce dans les deux directions suite à un accident qui s'est produit sur la Berne centrale.
Développement et déforestation. Chapitre 3. Rendement et propriété.
Le rendement de cette première agriculture en forêt va donc connaître progressivement une baisse tangible. Une diminution qui aura pour conséquence directe un mouvement de déplacement par rapport aux zones initialement cultivées. Avant d'évoquer ces mouvements, laissons le soin à Marcel Mazoyer de nous livrer quelques statistiques néolithiques concernant les familles et la hiérarchie de ces sociétés forestières.
Le rendement apparent, c'est de l'ordre de 10 quintaux par hectare défrigé. Le rendement réel par hectare semé récolté est beaucoup plus élevé. Mais il faut savoir qu'un homme qui va donc faire le défrichement pour une famille qui va s'y mettre tout entière pour semer, entretenir, récolter. Mais il y a un facteur limitant, c'est que le déboisement pour cultiver, c'est quand même un gros boulot. Et ensuite la culture à la houe dans les endroits défrichés, c'est quand même aussi un gros boulot. Donc on se retrouve quand même avec des surfaces par actif qui sont faibles, qui sont de l'ordre de 1 hectare par actif. Donc on va se trouver avec des productivités qui sont de l'ordre de 1 hectare que multiplie 10 quintaux, donc une dizaine de quintaux par actif. Ce qui fait la nourriture strictement minimum nécessaire pour 4-5 bouches à nourrir. Alors, il y a un vrai problème. Si vous êtes dans une famille conjugale, jeune, où il y a deux actifs, ils n'auront aucun mal à se nourrir. Cette même famille conjugale, 5 ou 6 ans après, ils peuvent avoir 6 bouches à nourrir, dont les deux actifs et 4 ou 5 enfants, ou plus. Et donc le ratio nombre d'actifs sur bouche à nourrir, dans une famille étroite, il va de une bouche à nourrir par actif à 7-8 bouches à nourrir par actif dans certaines situations. Eh bien, quand on en est à 7-8 bouches à nourrir par actif, ça ne marche pas. La productivité est insuffisante. Ensuite, quand tous ces enfants la travailleront, on repassera par une période faste. Et puis quand ils se marieront, ils se retrouveront dans des familles conjugales avantageuses, donc ils ont tendance à sauver vite pour ne pas être dans le système, etc., à laisser les anciens et les enfants à la charge de... Autrement dit, la famille conjugale étroite, avec ces variations incroyables du taux bouche à nourrir par actif, c'est le plus mauvais système qu'on puisse imaginer. Et dans ces sociétés-là, ça ne fonctionnait pas par famille conjugale, ça fonctionnait par famille élargie. Il y avait une demi-douzaine de familles conjugales, avec les enfants, les parents, et le grand-père au-dessus. Donc la famille élargie était une forme de résistance, d'existence sécurisée dans un système qui est peu productif. Alors, je pense qu'un des problèmes dans ces sociétés-là, c'est que pour diverses raisons, il y a une tendance au fractionnement des anciennes familles élargies. Deuxième aspect, quand la productivité est du même ordre de grandeur que les besoins d'une population équilibrée autour de ses actifs, bon, il n'y a pas beaucoup de surplus pour que des gens fassent rien. Ça veut donc dire qu'il y aura des forgerons, il y aura des artisans qui cultivent un peu pour eux quand même, et puis il y aura quand même un échange entre les houes, les haches et les produits alimentaires. Mais ce sera une division du travail relativement limitée, parce que les outils ne sont pas non plus extraordinairement difficiles à fabriquer ou importants à fabriquer. Et puis, il y aura des couches sociales qui ne travaillent pas, forcément très réduites. Les chefferies dans ces sociétés-là sont des chefferies qui vivent comment ? Eh bien, au fond, en prélevant des femmes, en surnombre parmi les dépendants, et ce sont ces femmes qui entretiennent une maisonnée un peu plus importante autour du chef. Et les hommes d'armes sont jamais qu'il y a un très petit nombre de gendarmes qui sont des jeunes mis à la disposition du chef, un peu mieux armés par lui. Et si on comptait ce que ça coûte, cette superstructure-là, à chaque paysan, on s'apercevrait que c'est très très faible en fait. Que c'est très très faible. C'est des sociétés qui supportent pas, qui n'ont pas une productivité telle qu'elles puissent supporter, en dehors de l'économie domestique qui la produit et qui en vit, qu'elles puissent supporter un État moderne qui coûte les yeux de la tête. Si vous faites le moindre État moderne sur, je vais dire, 1 million de paysans comme ça, vous prélevez la moitié du revenu des paysans. Mais si vous prélevez la moitié du revenu des paysans, vous réduisez vos paysans à la misère. Ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de sociétés forestières qui se sont données autre chose que des chefferies, on va dire, légères. Alors la construction d'États modernes dans des systèmes comme ça, ça pose des problèmes.
Il n'aura été question jusque-là que de terres, de défrichage, de techniques d'appropriation au sens général, pas encore privées. Avec l'avancée progressive de la déforestation, avec l'évolution de l'agriculture, un certain nombre de nouvelles problématiques vont se poser, et parmi elles, naturellement, la question de la propriété. D'une forêt et de techniques appartenant à personne, à tout le monde, on va peu à peu en venir aux questions de droit. Qu'est-ce qui est à qui et comment cela est-il défini ? Marcel Mazoyer.
Quand même, il y a des aspects très particuliers. Chaque fois qu'on va dans des sociétés qui pratiquent ce genre de système de culture, dans des forêts, et où c'est pas complètement bousculé par des phénomènes modernes de culture commerciale, d'extension urbaine, quand on a des systèmes qui ont l'air d'être là, bien en place, et de se reproduire plus ou moins depuis quelques générations, quand on regarde comment c'est fait, on s'aperçoit qu'au fond, on est dans des systèmes où que vous cultiviez 1 hectare sur 50, 1 hectare sur 30, ou même 1 hectare sur 15, il y a une relative abondance foncière dans les systèmes tels qu'ils se créent et tels qu'ils persistent un bon moment. Il y a une relative abondance foncière, et en réalité, cette forêt cultivable, qui sont les terrains cultivables, il y a les surfaces cultivées, c'est les parcelles défrichées, et puis il y a tous ces terrains. Cette forêt est cultivée, c'est la surface agricole utile, cette forêt cultivée, on dirait dans notre langage à nous. Eh bien, on constate que il n'y a pas de rareté de la terre, et donc, en général, il n'y a aucune restriction à l'accès à cette terre. Si ce n'est que chacun va défricher la parcelle qui lui est octroyée par le chef de village, ou par le conseil des anciens, ou par une assemblée des cultivateurs. Les modalités varient beaucoup, mais il y a un libre accès. Cette terre, on va dire, appartient à la communauté villageoise, qui d'ailleurs n'en fait pas un usage exclusif. Si des gens venus d'un autre village ou même venus de plus loin leur demandent des terres à défricher, etc., elles leur sont, tant que les terres sont surabondantes, ou abondantes en tout cas, elles leur sont octroyées en général sans difficulté, sauf s'il y a des griefs d'un autre ordre. Donc, on est dans la non-propriété des terres cultivables. Dire qu'elles sont communes, on peut peut-être dire ça. En tout cas, on est dans une indivision. Non, je veux dire, c'est difficile de le dire avec les mots de la propriété, puisqu'on est dans un univers où ça n'a pas de sens et ça n'en a pratiquement jamais eu. Donc, je ne sais pas trop comment il faut le dire. Moi, je dis indivision, commune, etc. En tout cas, non-propriété. Par contre, il y a quand même, il ne faut pas non plus tomber dans des espèces d'idéalisation, genre communisme primitif, ce n'est pas vrai non plus. Il y a bel et bien les maisons, le substratum des maisons, les maisons elles-mêmes, qui sont le produit d'un travail individuel ou collectif, mais qui sont quand même purement et simplement appropriées, même s'il n'y a pas des droits de propriété, s'il n'y a pas un cadastre, des jardins. Les maisons et les jardins sont privés. Les plantations, quand il y en a, y compris quand elles ont été installées dans la forêt, des plants de café, des bananiers, ils appartiennent, et la terre qui est dessous, tant que ça porte des fruits, ils appartiennent à celui qui l'a planté. C'est-à-dire que ce qui est réel là-dedans, c'est le droit de propriété sur les fruits du travail. Tant qu'ils sont porteurs de fruits sur un terrain donné, ce terrain est à usage exclusif de celui qui a semé, planté, construit, etc. Ce n'est pas un droit foncier, c'est un droit de suite sur les résultats du travail. Ça se comprend, je crois. Et alors, quand on voit que les rotations se raccourcissent pour cause d'accroissement de la densité de population, quand on revient cultiver tous les 6 ou 7 ans pendant un an ou deux, alors là, alors qu'avant on ne se souvenait pas et on ne cherchait pas à se souvenir de qui avait défriché la fois d'avant, là on s'en souvient. Et très souvent, il y a réaffectation, si ce n'est droit de suite absolu. Mais ça aussi, ce n'est pas un droit de propriété. C'est au fond, si on a cultivé, mal cultivé, maltraité cette terre, on vous la redonne la prochaine fois. La terre, 6-7 ans après, elle a le souvenir du traitement que vous lui avez fait subir. 50 ans après, c'est pas sûr.
Développement et déforestation. Chapitre 4. Colonisation des terres.
Comment des sociétés de cultivateurs parties du Proche-Orient vont-elles arriver jusqu'en Bretagne ou parvenir à Marrakech, en Éthiopie, au Congo? Comment, après avoir conquis les forêts aux quatre coins du monde, se fera la colonisation qui va suivre, les colonisations? Comment la mécanique pionnière qui avait permis à ces sociétés forestières d'organiser la vie dans l'espace de la forêt va-t-elle finir par s'effondrer et par quel mécanisme? Marcel Mazoyer.
Ce qui est clair, c'est quand on regarde depuis moins 10 000 ans jusqu'à moins 5 000 ans, les débuts de l'agriculture néolithique, au début de l'âge des métaux, phase dans laquelle l'agriculture néolithique a conquis presque toutes les terres cultivables, boisées des régions tempérées et des régions tropicales, premièrement, on s'aperçoit que effectivement la population humaine est passée de 5-6 millions d'habitants il y a 10 000 ans à une cinquantaine ou soixantaine de millions d'habitants il y a 5 000 ans. Alors, est-ce qu'il faut s'imaginer que des cultivateurs armés de haches, de pierres polies, etc., comme ça, sont partis à travers la vallée du Danube, depuis l'est de l'Europe jusqu'à l'ouest, se sont éparpillés, etc. Non, on peut penser ça, mais ça, c'est une pure conjecture. Ce qu'on voit en archéologie, c'est que les villages de cultivateurs néolithiques, pleinement constitués, on voit qu'il y en avait il y a 7000 ans... en Bulgarie, il y en avait il y a 6000 ans en Hongrie, il y en avait il y a 5000 ans en Bavière, il y en avait il y a 4000 ans dans la vallée du Rhin en Alsace, il y en avait il y a 3000 ans dans la vallée de la Seine, etc. C'est-à-dire qu'on voit, non pas une progression d'activité de culture sur un bâti brûlé comme ça, un peu désordonné et désocialisé, Non, on voit que ce sont des villages de cultivateurs qui conquièrent progressivement le terrain.
Cette conquête progressive, Marcel Mazoyer aura eu l'occasion de l'observer précisément en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans la région de Boaké. Les Baoulés, cultivateurs forestiers, vivent là, en lisière d'une forêt. Dans cette forêt, un village tous les 5 à 10 km, tous reliés entre eux. Des villages de 400 à 1 millier d'habitants. Les villages les plus petits apparaissent les plus récents, les plus grands ont 20 à 30 années de plus. Aux habitants des plus récents villages, on pose la question « D'où venez-vous ?»« De là-bas », répondent-ils. « Là-bas, ce sont les villages plus grands. Pourquoi de là-bas ? » ?»« Parce qu'il y avait trop de monde, pas assez de friches, des disputes quotidiennes. » Alors, les villages se coupent en deux. Ils se subdivisent. Une migration se met en place. De courtes distances, on migre dans le périmètre, le moins loin possible. De cette migration, appelée à se renouveler, à la prochaine explosion démographique, naît l'extension progressive. Marcel Mazoyer.
Donc, on a un phénomène, tout simplement, sédentarité, ressources abondantes, les gens se portent pas mal, la population augmente, et quand le village est surpeuplé, au point de réduire la durée de la friche en dessous d'un seuil qui met en cause la fertilité, ces gens ne changent pas de système, ils ne vont pas inventer un système de poste forestier, pas pour l'instant en tout cas, ils vont essayer de reconstituer un système forestier dans un endroit où c'est possible et accessible. Alors, pourquoi j'ai mis dynamique ancienne et dynamique actuelle ? Ben, c'est que moi, quand j'ai observé ça, on était dans des dynamiques où la population doublait tous les 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, le doublement de la taille du village, ça se produisait presque à l'échelle d'une génération ou de deux générations. Et donc, on avait des villages dans lesquels, au fond, on était installé depuis moins d'une génération, et des villages dans lesquels on était en train de se préparer à déménager dans moins d'une génération. Ce qui donnait à tout le monde une image de que c'était un système instable. Que c'était un système dans lequel, au fond, il fallait déménager toutes les générations pour se dédoubler et déménager. Seulement ça, c'est une image actuelle, avec des taux de croissance de la population entre 2, 3, 4 % par an. Mais ce n'est pas du tout l'image ancienne. Parce que il y a 100 ans, ne serait-ce que 100 ans, les taux de croissance de la population, ce n'était pas 2 ou 3 % par an, c'était 0,1 ou 0,2. Et donc, là, on a un système de subdivision-migration qui fonctionne en gros à chaque génération. Il n'y a personne qui n'a pas déménagé dans sa vie ou qui ne va pas déménager dans sa vie, sauf ceux qui meurent très jeunes. Et alors que quand on était avec des taux de croissance, on va dire 10 fois moindres, c'était tous les 100, 200 ou 300 ans que ça se produisait. La vitesse donc de subdivision-migration et donc la vitesse de progression du front pionnier, elle est déterminée par le taux de croissance de la population. Le temps qu'il faut pour passer d'un village qui a une rotation de 50 ans à un village qui a une rotation de 20 ans. Alors, ben, ce n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a 300 ans. Donc, on peut aujourd'hui, les gens qui observent les villages de cultivateurs forestiers, ils ont l'impression qu'ils détruisent la forêt en une génération. Mais c'est le doublement ou le triplement de la population qui a détruit la forêt. C'est pas le système. Le système, etc. Alors, donc, voilà. Alors, on passe donc à cette dynamique de déboisement ou de déforestation. Eh bien, effectivement, quand des cultivateurs sur abattu brûlis de la forêt équatoriale d'Afrique de l'Ouest, celle qui va depuis la Guinée jusqu'au Cameroun, là, ben, si vous regardez bien la carte, vous voyez d'abord que le front pionnier progresse, bon, mais vous voyez aussi que le front de déboisement derrière, le front de savanisation progresse. Alors, je peux vous assurer qu'en 30 ans en Côte d'Ivoire, la forêt, elle a reculé de plus de 100 hectares hein, quand on descend du nord vers le sud. Et il y a même des endroits comme au Togo ou au Bénin, eh bien, c'est savanisé jusqu'à la lagune côtière, jusqu'à la côte. Il n'y a plus de forêt équatoriale, côtière, au Togo, etc. Ça s'est produit il y a déjà au moins 50 ou 100 ans. Alors, évidemment que quand des cultivateurs, quand il n'y a plus de forêt devant eux, ben de toute façon, le processus pionnier ne fonctionne plus. Et donc, ils sont obligés, sauf à prendre le bateau et aller à l'autre bout du monde, ils sont obligés de continuer à cultiver sur place avec une population qui est devenue bien trop nombreuse pour continuer le système de culture sur abattis brûlis. Ils vont jusqu'à la déforestation complète. C'est-à-dire qu'en raccourcissant le cycle des défrichements, ben, ils arrivent à une ou deux années de culture, suivies de une ou deux années de brousse. Mais cette brousse, elle est herbacée et elle n'est pratiquement plus boisée. Et donc le stock de fertilité initial de la forêt, son mode de renouvellement par la friche, ont cessé. Alors donc, on est en train, très clairement, on ne pratique plus le système de culture sur abattis brûlis. Encore faut-il, pour pratiquer ce nouveau système, qui n'est pas dans un milieu boisé, mais dans un milieu herbacé, encore faut-il avoir des outils de travail du sol, à la différence des outils néolithiques du début, encore faut-il avoir des outils de travail du sol qui permettent de défricher autant que faire se peut un tapis herbacé, de lutter en permanence contre les mauvaises herbes, là on n'est pas en forêt, hein. Et puis encore faut-il, si possible, avoir un nouveau mode de renouvellement de la fertilité utile sur les terres qui sont cultivées, efficace. Donc, on est forcément devant un problème d'outillage. Il faut des outils pour cultiver ces nouvelles écosystèmes. Alors, vu aujourd'hui, ça pose peut-être moins de problèmes. Mais vu il y a 4-5 000 ans, il fallait inventer un nouveau système d'outillage. Aujourd'hui, on tape dans les systèmes d'outillage existants, accessibles, etc. Mais à l'époque, les haches de pierre polie ne servaient à rien pour cultiver un tapis herbacé. Alors, les herminettes, ça pouvait servir. Et deuxièmement, restriction des terres cultivables, et puis comment on les fertilise, comment on renouvelle leur fertilité. Donc on est dans la destruction des systèmes de culture sur abattis brûlis, et devant deux ou trois problèmes non résolus, qui sont celui de l'outillage, celui de la fertilité. Alors, où est-ce que ça s'est produit d'abord? Alors, le schéma que je viens de vous faire, vous allez dire, bon ben c'est au Finistère, c'est quand les cultivateurs sont arrivés en Bretagne, quand ils sont arrivés à la mer, ils ont déboisé. Donc la Bretagne devrait être le premier endroit déboisé de l'Occident. Eh bien non, pour la bonne raison que l'agriculture arrive en Bretagne il y a 5000 ans, peut-être même pas 4000, alors qu'elle existe depuis 10 000 ans, c'est-à-dire 5000 ans plus tôt dans le Proche et le Moyen-Orient. Et en fait, je vous dis que quand on est surdensifié dans un système de culture sur abattis brûlis, échapper à cette surdensification, ça marche bien quand on n'est pas loin du front pionnier. Mais quand le front pionnier qui est parti du bas Danube là, s'éloigne jusqu'à la Bretagne, bon, si vous êtes 500 km en arrière du front pionnier, ou 2000 km en arrière du front pionnier, les forêts vierges qui sont de l'autre côté, elles ne vous sont pas accessibles. En fait, les premières régions déboisées, c'est les régions autour du foyer d'origine proche-orientale. C'est la Syrie-Palestine, là. Et puis, c'est l'Arabie, et puis, c'est l'Afrique du Nord-Est, et puis, c'est l'Europe, c'est la Turquie, c'est l'Europe grecque, c'est l'Afrique du Nord. Le déboisement, il progresse d'est en ouest et du sud au nord. Enfin, il suit avec 2000 ans de distance et 2000 km de distance, il suit le front pionnier. Le déboisement se produit dans le même ordre que la colonisation, avec retard bien sûr, et dans le même ordre, et avec un décalage à peu près, on va dire quoi. D'accord ?
C'était Développement et déforestation, une conférence de Marcel Mazoyer donnée en mars 2004 à la Cité des Sciences Paris-Villette. Une mise en onde signée Anne Dicci. La déforestation aura pour conséquence une crise hydraulique majeure, une accentuation de la modification du paysage initial. Demain, suite de cette rencontre avec les travaux de Marcel Mazoyer, de la jachère à la culture fourragère.
Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc, avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan et Anne Dicci. Vous pouvez nous écrire ou podcaster nos émissions sur notre site internet rsr.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Histoire vivante est en nouvelle diffusion à 18h sur Espace 2. Vous écoutez la première, il est 16h.